Eh bien, voici que la musique à douce et les morts commence aujourd'hui sans son indicatif officiel, qui le suit pourtant depuis de nombreuses années déjà. En effet, la musique adoucit les mœurs existe depuis bien longtemps et vous propose tous les samedis après-midi sur Radio Air Libre un rendez-vous d'une heure consacré à la paix dans ses grandes longueurs. Ce qui veut dire qu'on parle souvent des obstacles à la paix, des initiatives qui sont prises pour aller vers une situation de paix et de non-violence. Et à l'occasion, nous en profitons également pour faire des séquences, disons, historiques. L'histoire nous apprend peut-être les erreurs à ne plus commettre aujourd'hui ou dans le futur. Et dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose une spéciale dans la série d'émissions que nous consacrons à la commémoration de la guerre de 14-18. Alors, la musique adoucit les mœurs vous est proposée tous les samedis de 14 à 15 heures sur Radio Air Libre, sur la fréquence de 87,7 FM, la première à gauche, peut-être d'ailleurs la seule radio à gauche sur la bande FM. Et puis, l'émission est rediffusée le vendredi matin de 9 à 10, toujours sur cette même antenne de Radio Air Libre. Radio Air Libre que vous pouvez bien sûr également écouter via les applications et programmes pour tablettes et ordinateurs. Alors une émission spéciale consacrée à la guerre de 14-18, en tout cas à la commémoration, avec, je vous propose une série de lectures de textes d'époque ou alors de gens qui ont participé à la guerre de 14-18 et qui en ont témoigné dans les différents côtés, sur les différents fronts. Et nous aurons pour illustrer cela quelques chansons qui sont soit des chansons d'avant, soit d'après, soit de pendant la Première Guerre mondiale, ou qui évoquent celle-ci, le souvenir de celle-ci, à travers des enregistrements peut-être plus récents. Sonore un ballet, le Coquelicot rouge, et poursuivre pour nous mettre dans l'ambiance en quelque sorte de la Première Guerre mondiale, une chanson allemande. C'est une chanson populaire allemande qui date, pense-t-on, de 1825. Er war einmal ein treuer Hussard. Il y a un hussard qui peut faire confiance, si je traduis ça comme ça. C'est une chanson populaire, elle a de nombreux couplets. Ici, c'est Anna Chigula qui nous interprète cette chanson.
Ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Noch viel mehr.
Au thème du retour en permission, répond en écho celui du mal du pays et de la désertion. Une complainte du XVIIIe siècle.
Le 15 juillet 1918, à 2h20 du matin, lors de l'ultime offensive allemande en direction de Paris, je fus frappé par un éclat d'obus sur la montagne de Reims. En même temps, mes poumons se remplissaient d'un gaz asphyxiant que je croyais être mortel. J'avais donc la conviction de ne pas dépasser le milieu d'après-midi. Tant d'autres ainsi atteints n'avaient pas excédé ce terme. On me relève, on me transporte dans une cavité de ce sol dont le destin était en jeu. Autour du jeune officier blessé que l'on croit être moribond, des hommes se regroupent et s'agenouillent, les uns pour lui donner des soins dont on pense qu'ils sont inutiles, les autres pour recueillir ses derniers mots et transmettre éventuellement ses dernières volontés. On interroge sa souffrance, on scrute le secret d'un corps où sans doute un germe de mort est désormais déposé, sans que l'ensemble des organes et des membres en soient déjà avertis. J'en suis encore à ce moment de l'évolution d'un mal, où seul un effort de raisonnement permet d'entrevoir la gravité de la lésion, les risques d'une issue fatale. Que de fois, en ces derniers mois de campagne, j'avais vu des hommes ainsi frappés, conservé pendant quelques heures, pendant la durée d'un répit que l'on tremblait de constater, la maîtrise d'un organisme apparemment presque indemne. C'était pour eux des instants éprouvants, certes, des instants de peur et d'angoisse, mais aussi des instants de facilité verbale et de gloriole satisfaite. Vivant leur mort, conservant l'intégrité de leur esprit sur le support intact, mais déjà chancelant de leur corps, ils recevaient encore vifs les honneurs dus aux défunts. Ils pouvaient, pendant ces instants, qui finissaient presque toujours par brusquement s'interrompre, parler d'eux-mêmes sur le ton grave et complaisant dont les vivants trop souvent honorent ceux qui n'ont d'autre titre à ce respect conventionnel que d'avoir cessé de vivre. Ils pouvaient, par ces regards qui souvent les entouraient, humer leur gloire posthume et pressentir leur oraison. Ainsi, moi, dans la tradition dont la tradition familiale et la formation universitaire avaient été d'exactitude et de scrupules, pourquoi ne céderais-je pas, comme tant d'autres, presque comme tous, aux tentations de complaisance, de facilité, d'emphase dont on camoufle et engourdit l'approche des agonies? N'était-ce pas mon tour, après tout? N'était-ce pas mon droit, le droit de ma chair meurtrie, de mon adolescence interrompue, le droit de ma mort prochaine que de jouir ainsi de mon reste, de savourer les honneurs que normalement je n'aurais pas dû mériter? Ne serait-ce pas montrer trop de scrupules, de jobardise ou même de mauvais esprit que de refuser les hommages que j'avais inopinément le privilège tragique de pouvoir ainsi précocement recueillir? N'est-ce pas aussi mon devoir que de donner à ceux qui m'entourent et vont continuer à se battre après que je les aurai quittés la satisfaction escomptée et réconfortante d'une mort conforme aux traditions, aux conventions et aux rites, À quoi bon les décevoir et à quoi bon me priver ? Dans la lucidité singulière d'un esprit qui n'a plus à se ménager et qui jette ses derniers feux, la question se pose avec l'acuité et l'urgence des problèmes impossibles à différer. Il faut choisir, et choisir vite, ou bien laisser dans la mémoire des hommes, de mes hommes, ce qu'ils attendent, ce qui ne les décevra pas, ce qui même peut les satisfaire et dont ils sont prêts à conserver le souvenir. Quelques mots frappés en sentence et faits pour une épitaphe ou une citation posthume, une image épinale ou un tableau à la De Taille, et s'en aller, la rage au cœur, le dégoût de soi-même aux lèvres, ayant gagné à ce prix la seule survie concevable pour qui meurt prématurément. Ou bien résister jusqu'à la fin, poursuivre jusqu'au dernier souffle un effort de lucidité, de vérité, qui n'aurait cessé d'être vain que continuer toute une vie et que prolonger par d'autres. Voici qu'à mon côté, dans mon refuge de terre, on dépose un autre corps qui, frappé peu après moi, semble être plus avancé dans le déroulement fatal. Le maréchal des logis décroît. À son allaitement, à son râle, il apparaît que le nouveau venu ne bénéficie pas du même répit et menace de s'éteindre sans avoir eu le temps de choisir et d'hésiter sur son choix. Les yeux du sous-officier agonisant se tournent alors vers moi. On sent qu'il attend de son camarade, de son chef, un ordre pour éclairer l'obscur passage où l'un après l'autre s'engage. C'est une imploration muette qui s'adresse autant à l'officier qu'à l'homme. C'est aussi pour moi, de façon concrète et tangible, l'annonce de mon sort probable. Du halètement qui l'obsède, il m'échoira bientôt de tressaillir à mon tour. Moi aussi j'éprouverai bientôt ces mouvements involontaires de la main autour du buste. Moi aussi, je me tournerai vers les vivants pour implorer de leur présence un réconfort dont je ne pourrai plus alors apprécier la vérité ni discuter la rigueur. Un instant, le bruit du canon se tait. La batterie, ayant accompli son premier programme de tir, semble vouloir reprendre haleine. Il est 4 heures. Peut-être est-ce pour l'ennemi l'heure hache de son offensive et s'apprête-t-il à sortir à l'heure des tranchées à quelques 2 kilomètres au pied de la montagne de Reims. Profitant de ce répit, et quoique je perçoive pertinemment que ma question est vaine, j'entre dans mon nouveau rôle, sachant très bien ce que je fais, et je m'entends demander si l'Allemand a été repoussé dans son attaque et si Paris est sauvé. La phrase ne trompe personne. Sauf peut-être l'agonisant qui, dans sa conscience vacillante, peut oublier que les liaisons sont impossibles entre les lignes et les pièces. Elle ne me trompe pas, car j'ai encore toute ma tête. Elle ne trompe évidemment aucun de ceux qui nous entourent. Pourtant, par égard pour le blessé, par égard pour le mourant, et peut-être surtout par égard pour les conventions de guerre, la réponse vient immédiatement, sans l'ombre d'une hésitation. « Soyez tranquille, mon lieutenant. On l'a partout repoussé. » Comme n'attendant que ces mots, je réplique en regardant mon camarade. « Alors je ne regrette rien. Alors nous ne regrettons rien. » Puis, je ferme un instant les yeux, ayant eu devant la mort et pour la mort le facile courage de trahir les exigences de ma vie. Mais voici que dans la pénombre hermétique de ma conscience, le dégoût m'a envahi. Que ceux qui ne se sont pas trahis ou qui ne se serait pas trahi en des circonstances semblables me jette la première pierre. Peut-être d'ailleurs aurait-il manqué à leur devoir du moment, mais que les autres, tous les autres, et en particulier le personnage exceptionnel à qui ce livre est consacré, comprennent à quel point de tels souvenirs marquent un homme. Sans doute au dernier moment, la mort fut-elle absente au rendez-vous que l'on croyait inéluctable, les gaz qui avaient pénétré dans mes poumons n'étaient pas de l'hypérite mais des vapeurs suffocantes, destinées à gêner momentanément les défenseurs de la montagne sans incommoder ultérieurement les ennemis dans leur progression. Il n'empêche que j'ai menti devant la mort et que si, comme je le pensais alors, la mort m'eût vraiment saisi, j'aurais quitté l'existence dans le dégoût de moi, dans le reniement de ma vie. Alors, le texte que je viens de vous lire, c'est un extrait de l'introduction d'un livre que Robert Aron a consacré à De Gaulle, à Charles de Gaulle, qui s'est aussi illustré, comme vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale. Ça ne lui a pas valu que des hommages, d'ailleurs. Certains, par la suite, lui ont reproché l'une ou l'autre attitude. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on est là pour évoquer, avec des témoignages précis, avec des récits d'auteurs, entre autres français, témoigner de cette Première Guerre mondiale, des souffrances, des atrocités que les gens ont vécues à cause d'elle. En fond sonore, c'est la musique du Venusberg, extraite de Tannhäuser de Richard Wagner, interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra avec les chœurs Beckham sous la direction de Sascha Ehrenstein. Pour suivre une chanson qui est typique de la chanson patriotique censée donner du courage au ventre à ceux qui allaient mourir, une chanson française qui date de 1916, « Verdun, on ne passe pas » de Mercier et Cazol, interprétée pour nous en original par Jules Wolff.
Les ennemi s'avance avec rage, énorme flot d'un vivant océan, semant la mort partout sur son passage, ivre de bruit, de carnage et de sang. Ils vont passer en relevant la tête, un officier dans un suprême effort. Quoique mourant, pris à la baïonnette, tardis les gars, debout, debout les morts. Et perdant la victorieuse, pour tant pris que saute là-bas, les échos débordent la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Plus d'arrogance, puis est barbare dès la queue. C'est ici la porte de France. Et vous ne passerez jamais.
Annoncer la relève pour ce soir. Moi, je ne l'espère plus, je ne sais plus. Nous sommes là depuis un très long temps. On nous a mis là, on nous y a oubliés. Personne ne viendra, personne ne pourra nous remplacer à la lisière de ce bois, dans ce fossé, sous cette pluie. Et d'ailleurs, à quoi bon ? Mes vêtements englués de boue, les bandes molletières qui broient mes jambes, mes chaussures brûlées et raidies. Les courroies de mon équipement, est-ce que tout cela maintenant ne fait pas partie de ma souffrance ? Cela colle à moi. L'eau qui a pénétré jusqu'à ma peau d'abord coule maintenant dans mes veines. Maintenant, je suis une masse boueuse et prise par l'eau et qui a froid jusqu'au plus profond d'elle, froid comme la paille qui nous abritait et dont les brins s'agglutinent et pourrissent, froid. Comme les bois dont chaque feuille ruisselle et tremble, froid comme la terre des champs qui peu à peu se délaye et fond. Hier, peut-être, il était temps encore. En partant hier, nous aurions pu nous défendre, nous ressaisir, réparer. Aujourd'hui, le mal a trop gagné. On ne peut pas réparer tout ce mal. Il est trop tard. Ça ne vaut même plus la peine d'espérer. Je suis seul sur le champ de bataille. Je suis la tranchée blanche, le bois vert et roux. L'obus miaule, je te tuerai. Animez-vous, fantassins, à passepoil jaune, grands artilleurs roux comme des taupes, ou mauve encore, ou bleu horizon comme les autres, ou d'étain. Venez le pot en tête, debout fusée éclairante, danse grenardier en agitant tes pommes de pin. Alidade des triangles, de visée, pointez-vous sur les lueurs. Creusez des trous d'enfants de 20 ans, creusez des trous. Sculptez les profondeurs, envolez-vous, essaim. les avions blonds, ainsi que les avettes. Moi, à l'horizon, je fais la roue comme un grand paon. Écoutez renaître les oracles qui avaient cessé. Le grand paon est ressuscité. Champagne viril qui émoustille la champagne. Homme fait jeune gens, caméléon des autocanons. Et vous, classe 16. Craquement des arrivées ou bien floraison blanche dans les cieux. J'étais content pourtant, ça brûlait la paupière. Les officiers captifs voulaient cacher leur nom. Œil du Breton blessé, couché sur la civière et qui criait aux morts, aux sapins, aux canons. Priez pour moi, bon Dieu, je suis le pauvre Pierre. C'était des mannequins debout qui défilaient, godillots debout, cuissards debout, capotes debout et des bidons pareils à de gros blocs d'argile. Pas un des blessés légers n'avait quitté les rangs, mais il n'était pas plus blême, pas plus épuisé que les autres. Tous avaient sous le casque les mêmes traits d'épouvante. Un défilé de revenants. Les paysans du front ont le cœur endurci et ne s'émeuvent plus guère après tant d'horreurs. Pourtant, quand ils virent déboucher la première compagnie de ce régiment d'outre-tombe, leur visage changea. Oh, les pauvres gens! Une femme pleura, puis d'autres, puis toutes. C'était un hommage de larmes tout le long des maisons, et c'est seulement en les voyant pleurer que nous comprîmes combien nous avions souffert. Un triste orgueil vint au plus fruste. Toutes les têtes se redressèrent, une étrange fierté aux yeux, la musique nous entraînait, à plein cuivre, tambours roulants, les plus fourbus semblaient revivre, et on les sentait tout prêts à crier « C'est nous qui avons fait l'attaque, c'est nous qui revenons de là-haut !» Serais-je donc le seul lâche sur terre, pensais-je? Et avec quel effroi! Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, fermé sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100 000 fois plus enragé que 1 000 chiens et tellement plus vicieux, nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Très loin, la boule blanche d'un shrapnel fondait dans le ciel gris de décembre. La laine du combat nous frôlait et faisait courir en nous un étrange frisson. Sentions-nous que nous allions presque tous être engloutis. En 10 jours, où ce grondement sourd derrière l'horizon s'enflerait en tonnerre, au roulement continu. D'abord l'un, puis l'autre, nous avions quitté les salles de cours, les bancs de l'école, les établis, et les brèves semaines d'instruction nous avaient fondu en un grand corps, brûlant d'enthousiasme. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l'inhabituel, des grands périls. La guerre nous avait donc saisi comme une ivresse. C'est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de roses et de sang. Nul doute que la guerre ne nous offrit la grandeur, la force, la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile, de joyeux combats de tirailleurs dans des prés où le sang tombait en rosée sur les fleurs. Pas de plus belle mort au monde. Ah, surtout ne pas rester chez soi, être admis à cette communion. Dis donc, sans te commander, il y a quelque chose que je voulais te demander. Voilà la chose, si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les feras parler comme ils parlent? Ou bien est-ce que tu arrangeras ça en loup-doc? C'est rapport aux gros mots qu'on dit. Car enfin, pas... on a beau être très camarades et sans qu'on s'engueule pour ça, tu n'entendras jamais deux poilus l'ouvrir pendant une minute sans qu'ils disent et qu'ils répètent des choses que les imprimeurs n'aiment pas besoin imprimer. Alors quoi? Si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera pas ressemblant. C'est comme qui dirait que tu voudrais les peindre et que tu ne mettes pas une des couleurs les plus voyantes partout où elle est. Mais pourtant, ça se fait pas. Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit père, parce que c'est la vérité. Mais dis-moi, si tu le mets, est-ce que les types de ton bord, sans s'occuper de la vérité, ne diront pas que t'es un cochon? C'est probable, mais je le ferai tout de même, m'occuper de ces types. Veux-tu mon opinion? Quoique je m'y connais pas en livre, c'est courageux ça, parce que ça se fait pas. Et ce sera très chic si tu l'oses, mais t'auras de la peine au dernier moment, t'es trop poli. C'est même un des défauts que je te connais, depuis qu'on se connaît. Pas toi qui courais les filles. Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps, sans visage et sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu, quelque part, ça commence à n'être plus du jeu, les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs. Vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Vous étirez vos bras, vous retrouvez le jour. Arrêt brusque et quelqu'un crie « au jus là-dedans ». Vous bâillez, vous avez une bouche et des dents. Et le caporal chante au pont de Minocourt. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Écoute de la musique à Douce Limeur, une émission de Radio Air Libre. Avec en fond sonore le concerto pour piano numéro 2 en Fa mineur opus 21 de Frédéric Chopin. Interprété par l'Orchestre des Concerts Lamoureux sous la direction d'Igor Markevitch avec au piano Clara Askill. Et je vous ai lu en succession une série de textes d'extraits de livres d'auteurs belges, français, allemands. Il y avait Maurice Genevoix avec le texte sous-titré « Il est trop tard », extrait de Souverdin, 1916. Et puis l'obus qui miaulait, c'était Guillaume Apollinaire dans « Les calligrammes », « Chant de l'horizon en Champagne », texte de 1918. Roland Dorgelès avec le fameux livre « Les croix de bois » en 1919, qui nous parlait de ces hommes couverts de boue qu'on ne reconnaissait pas et qu'on pensait être des revenants quelque part du front, couverts de boue qui émeuvaient les femmes jusqu'aux pleurs. Céline avec un extrait de Voyage au bout de la nuit, où il faisait référence à son séjour au début de la guerre sur le front. Il était engagé volontaire. Et donc il se demandait s'il était le seul lâche sur la terre. Il y avait ensuite un texte d'Ernst Jünger, extrait de Orage d'acier, paru en 1920. Et on parlait de cette boule blanche de shrapnel qui fondait sur les tranchées. Le dialogue entre Henri Barbuse et un de ses camarades, ne parlant pas très bien le français ou utilisant des gros mots, c'est extrait du livre Le Feu, 1916, qui est un ouvrage vraiment de référence dans le domaine. Et enfin, je vous ai lu une version à peu près originale de Tu n'en reviendras pas, qui a été mis en musique par Léo Ferré dans une version légèrement différente. Cet extrait du recueil Roman inachevé, La guerre et ce qui s'en suivit. Roman inachevé paru en 1956 et qui continuait à évoquer la guerre de 14-18. Une chanson d'ailleurs que je vous ai déjà passée à de nombreuses reprises dans cette émission. Un matin, pour la première fois, la compagnie d'Alban fut sérieusement bombardée. Alban fit bonne contenance, c'est égal, le temps lui parut long. Il songeait, le calme revenu, quand le sifflement descendait sur moi et qu'en une seconde je pouvais être jeté dans l'éternité. Je n'ai eu ni une pensée religieuse, ni un repentir, ni un élan vers aucun de ceux que j'aime. Depuis le jour qu'il avait décidé de venir au feu, il ne s'était pas arrêté une fois sur l'idée de la mort. Il n'avait écrit à personne, rédigé nul papier testamentaire. C'est que, malgré tout, si exceptionnelle qu'elle soit, la réalité est toujours un peu secondaire pour lui. Et cependant, c'est bien ensemble l'intelligence du danger et l'appétit du danger qu'il rapportait de cette alerte. Il était content d'avoir senti enfin la peur de la mort. C'est un très beau sentiment, très émouvant, comme un homme qui a longtemps vécu dans un élément qui n'est pas le sien, s'y est habitué, n'en souffre pas, mais s'il goûte un jour de son élément natal, il sent un tel amour entre celui-ci et sa nature, et une telle joie de cet amour qu'il ne peut plus vivre dans son ancien état. Ainsi, Alban ne se sentait plus vivre que dans l'hérétisme que donne ce danger. Là était l'atmosphère qui lui était favorable, celle de son meilleur rendement. Thank you. sans doute pour ce baptême du feu, il n'avait pas gardé tout son sang-froid, mais c'est qu'alors il avait été surpris. Pour le danger qu'on recherche par un acte de volonté, une merveilleuse exaltation de la vie lui venait, parce que là, c'est probablement le jeu. Quand il pointait sur le plan directeur une piste bien en vue, il la prenait de préférence aux autres. Quand voyant un obus tomber à 200 mètres, il pressait le pas vers son point de chute. Quand il musait avec intention dans un lieu battu par une mitrailleuse, il sentait quelque chose de pareil, peut-on croire, à ce que demandent à l'ivresse certains artistes. Une accélération de pensée, un flux de mémoire, un épanouissement d'images, jusqu'à des éclairs de pénétration pour telles âmes qui lui étaient un peu nocturnes, jusqu'à des explosions de joie créatrice qui lui faisaient s'écrier « J'aurai beaucoup d'enfants ». Une plénitude dont il prenait conscience, les yeux baissés, avec un sourire des lèvres closes, comme s'il faisait quelque chose de mal. Et c'est vrai que cette sorte de courage vous a des apparences de péché. Elle n'est pas qu'une forme de curiosité de la vie, comme le goût du sacrifice n'est qu'une forme de la prodigalité de la vie. Elle est l'envahissement de tout l'être par la tentation d'un acte, l'abolissement de tout ce qui pourrait y faire obstacle. Et l'héroïsme n'est plus alors de voler à l'appel du péril, mais d'y résister. Puis, toute cette joie était couverte de sang. La guerre existera toujours parce qu'il y aura toujours des garçons de 20 ans pour la tirer dehors à force d'amour. Ainsi, de nouveau, se manifestait-il exceptionnel. Dans les milieux les plus contraires, toujours, il se trouve un isolé. Cette menace plus proche de la mort éveilla sa sensualité. Encore une fois avant de mourir, encore une fois et j'accepte de mourir. À plusieurs reprises, son service le fit descendre au village pour la nuit. Il ne savait jamais en descendant qui lui donnerait le plaisir de ce soir. La nuit tombée, il se mettait en chasse. Comme certains animaux prennent en chasse une physionomie particulière, ainsi le jeune homme, à sa seule tournure, du premier aspect, on eût reconnu son souci. Penché en avant, les bras pendants, marchant vite et les pieds un peu rentrés, du pas d'un homme qui a beaucoup marché dans la brousse, avec les traits figés dans le visage qui ne pivote pas, mais les yeux virent à droite, à gauche, et le visage est d'une admirable gravité. Tel il retrouvait peut-être les gestes des premiers ancêtres lorsqu'il s'enfonçait dans la forêt polychrome. Et ce qui poussait tous ces hommes qui se dispersaient dans les fins de jour, ce n'était pas seulement la recherche de la joie brève, mais dans l'être si longtemps tendu pour détruire et toujours détruire, l'obscur besoin d'un simulacre de création. Parfois la femme l'insultait. Miette de pain lancée contre une forteresse, exactement, il est inhumiliable. D'autres fois c'était de brusques ténèbres, une horizontalité, la nuit de la bouche, le retourné visage consentant. Et puis le rapide départ, la volonté de ne savoir ni le nom, ni le prénom, ni même l'apparence distincte de la face, la volonté que rien n'existe de commun entre deux, que cette haute seconde, aveugle et dévorée, j'ignore qui j'ai aimé dans la nuit. Et c'est vrai que souvent, ces esprits de la nuit, il eût été incapable le lendemain de les reconnaître. Une fois ce fut dans les grandes herbes qui vous cachent, une fois dans le grenier, et du foin s'élève une poussière qui les enveloppe, comme la nuée qui enveloppe Zeus et l'épouse dans leur embrassement. Ah, toute sa vie pour la minute dans le grenier, effrayante de bonheur. Une fois dans la carriole nocturne, parmi l'odeur du chanvre des sacs vides, derrière le gros dos immobile du père qui feint de ne pas comprendre. Quel rugissement! Ainsi se prémunisait-il contre l'atroce question dans l'agonie. Ai-je usé suffisamment des êtres ? Pourtant, sous ses joies, vivait un regret, celui de n'avoir pas tué. Quoi, cette occasion de la guerre passerait en vain ? Cela lui laissait un sourd sentiment d'infériorité, analogue à celui qui lui venait jadis en songeant que sur le ring, dans les championnats d'amateurs, il avait battu de ses adversaires au poing. Il en avait forcé d'autres à abandonner, mais jamais il n'avait pu réussir un knockout. Une nuit, ils furent attaqués. Le réduit était tenu par de la gauzaille. En secteur, pour la première fois depuis 5 jours, cela se battit comme des diables, lançant la grenade avec les cris, l'excitation, les bousculades d'hier, quand ça se bombardait de boules de neige à l'école. Alban s'employait de façon un peu confuse, pas très efficace. Cependant, il visa un personnage qui dépassait tous les autres par la taille et qu'il prit à cause de cela pour un dieu. La grenade éclata. Dans le désordre, il ne sut rien de plus. Le matin, l'assaillant était repoussé. Et le réduit de Goutte Noire, qu'on l'appelait, devint le réduit des Loupiots. Mais on ne retrouva pas le cadavre du dieu. Et le plus clair de cette affaire fut qu'Alban y perdit son casque, où il avait fixé une petite tête de gorgone, bronze romain, dont lui avait fait cadeau le cardinal, en remerciement d'une poésie en vers latin où il l'avait loué. Une autre fois, usant de la liberté que lui donnait son service de liaison, il pénétra pour s'amuser dans les lignes allemandes, tomba sur 3 pépères qui ne soupçonnèrent pas sa présence, cachés qu'il était derrière un talus. Si grand que fut son désir de les tuer prudemment, devant leur nombre, il battit en retraite. Mais il grelottait de regret. Une autre fois, étant dans la première tranchée, une balle lui siffla aux oreilles. Furieux, il sort son Browning, s'élance sur le parapet, mais un camarade, le voyant dément, l'empoigne par les pieds, il bascule. Dans cet instant, une balle traversait l'espace à la place que debout il eût occupé. C'est ainsi que chaque fois, une gloire légitime lui était dérobée. Le texte que je viens de vous lire est un texte d'Henri de Monterland. On va continuer cette émission La musique adoucit les morts, cette spéciale commémoration de la guerre de 14-18, par une autre chanson d'époque, 1916. Pour l'enregistrement par Marcelli de cette chanson « Ils ne passeront pas ». De nouveau une chanson destinée à remonter le moral des troupes, à leur donner du cœur au ventre, façon de parler. Alors que, vous l'avez bien compris dans la plupart des textes que je vous ai lus, l'important n'était pas de ne pas mourir, l'important était de résister à la résignation d'être devant la mort et d'être promis à une mort très prochaine. Marcelli donc dans « Ils ne passeront pas » en 1916.
Prendre Verdun et contracter l'emprunt dans leur pays bloqué et craignant la famine. Les Allemands maudits, un beau jour c'était dit, tombons sur les Français, écrasons les Pardines. Ils avaient escompté un éclatant succès, leurs journaux d'outre-Rhin criaient déjà victoire. Mais nos vaillants soldats qui se battent là-bas furent en peu de temps enrayés. Cette gloire, ils passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Nos poilus résolus contre braves, les Français ne sont jamais esclaves des têtes de bonnes aux appétits cruels des pas. Ils passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Le succès est forcé pour nos armes, Français, oublions nos armes, on les aura, ils passeront pas. «
sur l'Isère, les hordes du Césaire, fauchées par nos canons, s'amoncellent sur place, fantassins, artilleurs, valeureux et sans peur, en les prenant de flanc, les détruisent en masse. Du général Pétain, la France de demain pourra se souvenir en lui dessinant l'offre de son admiration qui confondra les noms de Castelnau, Mauduit, de Montlhéry, de Fabre. Ils passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Nos poilus résolus sont trop braves. Les Français ne sont jamais esclaves. Des têtes de bœuf ont appétit pour les états. Ils ne passeront pas, on les aura, ils passeront pas. Le succès est forcé pour nos armes, Français ou pigeons, nos armes. On les aura, ils ne passeront pas.
Eh bien voilà, c'était Marcelli dans « Ils ne passeront pas ». Alors je pourrais vous encore en passer quelques-unes du même style, mais on va passer à un autre type de chanson qui parle de la guerre de 14 et plus dans l'esprit du souvenir, avec un groupe qui n'a pas vraiment de nom. On va l'appeler « Les Voix perdues » puisque c'est ainsi que s'appelle leur disque. Il y a d'ailleurs la traduction en anglais et en néerlandais, This Blasted War et Storm Orlog. Alors, les voix perdues, Steven Dazeler, Koen Herweers, Bart Pilat et Hugo Van Dyck qui nous interprètent ici une chanson de Jim Boyce, Unison in Harmony. Alors, le disque est sorti à l'occasion de la commémoration du début de la Première Guerre mondiale à Anvers, et plus exactement dans le district de Wilrijk. Et cela s'inscrit également dans tout le programme de commémoration de la Première Guerre mondiale sous la houlette de In Flanders Field, où il y a ce musée du côté de l'Isère, comme vous le savez, qui depuis des années d'ailleurs commémore, rend hommage, donne aussi des informations et nous permet de nous souvenir de la vie qu'on menait ou la mort qu'on menait, peut-être des gens de notre famille à ce moment-là.
Soaring skywards, leaping sideways, do all thy words cleave the air? Joy and laughter, mornings after, razor rafters, we don't care. If the roofs beyond repair, razor rafters, razor rafters, razor rafters, we don't care. If the roofs be beyond repair, sisters, brothers, to all others, let it be our guiding star. Hearts on fire, no Messiah, hear the music from afar. What we sing is what we are. Hear the music, hear the music, hear the music from afar. What we sing is what we are. Over hills and over valleys, over mountains, over seas,
shall sing unto nations, until nations cease to be. Unison in harmony, until nations, until nations cease to be. Unison in harmony, until nations, until nations cease to be. Unison in harmony.
Unison in Harmony, c'était les voix perdues et qui me permet d'arriver à la fin de cette émission La musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui. Je vous rappelle que La musique adoucit les mœurs, c'est une émission de Radio Air Libre qui vous est proposée chaque semaine depuis de longues années déjà et qui est habituellement consacrée à la paix, la recherche de la paix dans toutes les formes que cela peut prendre. Et donc aussi les luttes contre la guerre ou contre les guerres, les causes des guerres, les conséquences des guerres et les guerres en elles-mêmes. Et également son équivalent civil, dirais-je, qui est la lutte pour la non-violence.